RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tout cet emballement médiatique autour du jubilé de la reine d'Angleterre me donne furieusement envie d'écouter God Save the Queen des Sex Pistols. La culture anglaise, ce n'est pas que Tea Times, les collections de chapeaux et les salutations guindées depuis le balcon de Buckingham Palace. Nous, chez nos voisins d'outre-Manche, on aime aussi et surtout leur esprit punk. Et malheureusement, à l'aune du réchauffement climatique, le no futur de ces amateurs de crêtes et de bière n'a pas pris une ride. Chez les Anglais, on aime aussi l'esprit psychédélique. Alice au Pays des Merveilles nous fascine. Mais aujourd'hui, si on suit la jeune Anglaise blonde dans son terrier, on a un peu peur de se retrouver dans le métaverse. Ah mais c'est quoi le métavers ? On se souvient, la semaine dernière, notre ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, défendait que la culture française devait se faire entendre jusque dans les tréfonds de ce fameux métavers. Et nous n'avions pas relevé, comme si tout le monde était familier de ces nouveaux horizons numériques. Le métavers, c'est l'utopie d'un nouveau monde en réalité augmentée. Des univers parallèles, virtuels, qui se développent à partir de l'industrie des jeux vidéo, des réseaux sociaux, mais pas que. Des lieux de créativité, mais aussi de prédation, où les GAFAM sont à l'affût, bien décidés à ne pas perdre une miette de ce nouveau gâteau. Facebook ne s'est-il pas rebaptisé Meta ? Ce week-end, la reine est-elle dans le métavers ? Probablement bien accompagnée du chapelier fou et du lapin blanc. Mais je suis en retard, alors Alice a disparu et Effervescence doit commencer. Pas de temps pour une tasse de thé, plus que jamais, God Save the Queen.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Allez, on se dépêche et je vous présente les larrons qui m'accompagnent dans ce nouvel épisode d'Effervescence. La culture britannique n'a pas de secret pour lui, mais aujourd'hui, dans notre émission, il sera des plus franchouillards avec le dernier des Pléchins au cinéma et un escalier des plus royales qui sort de longs mois de restauration, c'est celui du château de Fontainebleau. Bonjour François Huguenin.
Bonjour Stéphanie.
Elle a survécu à 11 jours de Festival de Cannes et elle nous dira comment voir les films lauréats apparaître très prochainement. Et puis comme il n'y a pas que le cinéma dans la vie, elle nous emmènera au théâtre découvrir Laurence d'Arabie, un spectacle époustouflant signé Éric Bouvron. Bonjour Valérie de Marniac.
Bonjour Stéphanie.
Elle aussi aime passionnément le théâtre, au point qu'elle s'est farcie les 3 heures de la cérémonie des Molières lundi dernier. Et on la remercie, mais au-delà du théâtre, elle nous fera découvrir les rois du polar italien et nous embarquera dans la prochaine édition des Flâneries d'art à Aix-en-Provence. Bonjour Michel Tadi.
Bonjour.
Enfin de Marseille, on remonte facilement à Bruxelles où nous attend Delphine Fraissinet qui n'a pas terminé de nous faire découvrir les richesses de cette ville. Bonjour Delphine.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Avec vous cette semaine, on découvre qu'il n'y a pas que le panthéon des artistes belges ne se limite pas à Jacques Brel. Vous rendez donc hommage à l'harmoniciste Toots Thielemans. Et puis au cinéma, vous avez vu L'école du bout du monde et ça nous emmène bien plus loin que Bruxelles. François, Valérie, Michel et Delphine, 4 chroniqueurs qui vont faire pétiller cette émission.
Le monde entier est un théâtre, les hommes et les femmes. Ce sont que des comédiens.
Très court et génial extrait de Comme il vous plaira, la pièce de Shakespeare dans une mise en scène de Léna Brébant qui lundi soir a raflé les principaux Molières, 4 statuettes exactement, hein, Molière du théâtre privé, Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre privé, Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé, c'était Barbara Schulz, hein, et puis Molière de la comédienne dans un second rôle, c'était Ariane Mourier. Alors Michel, vous avez assisté à cette soirée des Molières, c'est peu dire hein, qu'elle était attendue. Après 2 ans de morne pleine, qu'est-ce que vous avez envie d'en retenir ?
Alors d'abord, je ne me les suis pas farcies, hein, voilà, ces 3 heures de Molière. J'ai regardé avec attention. Ce que j'en ai retenu, c'était la 33e édition, bon ça va. J'en ai retenu d'abord qu'il y a eu un hommage au patron hein, pour son 400e anniversaire. Il y a eu Molière. Chaque fois que Alex Vizorek qui prenait la parole, qui présentait la cérémonie, citait Molière. Bon, alors c'est vrai que cette cérémonie a été finalement le reflet de ce que le public va voir en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu de la comédie, qui a été récompensé avec le spectacle musical Les producteurs d'Alexis Michalik, qui a eu deux Molières.
Nous en avions parlé aussi.
Voilà. Il y a eu aussi les classiques avec Comme il vous plaira, dont on vient d'entendre une toute petite réplique, avec quatre récompenses, dont Stéphanie vous avait parlé. Il y a eu aussi des Molières plus grand public, avec Le voyage de Gulliver, de Christian Eck et de son épouse, Valérie Le Sort. Bon, donc, il y a eu beaucoup de choses que le public a aimées. Et pour une fois, la cérémonie ne s'est pas coupée de son public. Alors, ce public, il faut peut-être en parler, parce que le public de théâtre revient dans les salles, peut-être un petit peu plus qu'au cinéma, parce que il y a des envies de dernier moment. En fait, le public ne s'abonne plus. Ça a été remarqué cette saison, mais vient, se décide au dernier moment, un peu le bouche à oreille, un peu l'envie d'aller voir quelque chose, un peu l'envie ça a recommencé, on y va. Et donc finalement, les spectacles sont pratiquement pleins tous les jours. Alors il reste quelques petites places, bien sûr, mais les gens ont envie de retourner au théâtre. Et comme l'a si bien dit Jacques Weber en citant Jouvet, au théâtre on joue, au cinéma on a joué, et les gens ont besoin de ce contact physique, vivant, de proximité avec la comédie. On a retenu aussi le retour des troupes. Avant, il y avait énormément de spectacles à 2, 3, 1 comédiens. Là, par exemple, les producteurs, il y a 16 personnes sur scène. Comme il vous plaira, le Shakespeare qui a trusté les quatre principales récompenses, ils sont aussi très nombreux, il y a une dizaine de comédiens. Et puis, on a noté aussi les femmes, pas simplement pour les problèmes de violences sexuelles qui ont été abordés, mais les femmes prennent de plus en plus le pouvoir au théâtre. Alors, on a entendu dire que les femmes, les compagnies ou les femmes metteurs en scène ne recevaient que 18% des subventions. Eh ben, ça va être un petit peu plus, parce que maintenant, elles vont devenir plus nombreuses. Donc forcément, ben, quand elles sont plus nombreuses, les 18% vont se devenir peut-être 36, peut-être 50. Il va peut-être y avoir un rééquilibrage là-dessus. Et je trouve que cette cérémonie, avec aussi Clotilde Haine, qui a eu le Molière de la comédienne pour Stallone, et que l'on voit actuellement à la télé dans HPI, la série de TF1, ben les femmes sont très très présentes, aussi bien dans la technique, hein, puisqu'elles sont décoratrices, elles sont metteurs en scène, elles sont éclairagistes, elles sont costumières bien sûr, mais ça c'est habituel, et elles sont comédiennes, mais elles sont aussi chefs de troupe, et les femmes prennent le pouvoir au théâtre, et ça c'est pas mal du tout.
C'était la tendance 2022 pour le monde du théâtre. Merci beaucoup Michel. Arte, la chaîne franco-allemande, fête ses 30 ans. Vous avez reconnu le jingle si vous êtes un habitué de cette chaîne. Dans cette émission régulièrement, nous partageons avec vous tout le bien que nous pensons de cette chaîne culturelle, héritage de l'entente entre François Mitterrand et Helmut Kohl. Enfin, bon, ça c'est la légende. Hein. En 30 ans, la chaîne Iconoclaste a su se faire une place unique dans le paysage audiovisuel français, à la pointe de la création artistique, mais aussi de la diffusion du patrimoine. Une chaîne qui se prolonge maintenant par un site internet et une application des plus riches. Et cet anniversaire est l'occasion pour la chaîne d'offrir un certain nombre de pépites et d'occasions de jubiler à ses spectateurs conquis. Alors comme Flea par exemple, c'est un documentaire qui était en contre-programmation des Molières lundi soir sur Arte et qu'on peut regarder jusqu'à la fin du mois d'août sur le site d'Arte. Flea qui retrace l'épopée d'Amin, un jeune Afghan arrivé au Danemark au début des années 80. Alors dans ce documentaire qui est aussi un film d'animation, il raconte son histoire pour la première fois. Je vous ai demandé de le regarder. On va écouter un extrait du film et on en parle juste après.
Alors, remonte un peu, un tout petit peu. C'est trop là. Redescends.
Comme ça?
Voilà, parfait. Okay. Super. Attention, je clappe. Interview Amin.
Okay.
Jour 1. Bon, maintenant, tu vas fermer les yeux.
D'accord.
Prends une grande inspiration et détends-toi complètement. T'avais déjà raconté ton histoire avant ?
Non.
T'es donc d'accord pour me la raconter à moi ?
Ouais.
Je me dis que... N'essaie pas de tout me raconter tout de suite. Commence par tes premiers souvenirs. Quelle est la première chose dont tu te souviennes ?
J'ai 3-4 ans.
Où es-tu ?
En Afghanistan, à Kaboul.
Trois, quatre ans en Afghanistan, à Kaboul, et puis des années plus tard au Danemark. Vous avez vu ce film, Valérie de Marniac, vous avez aimé ?
Oui, et d'ailleurs, en l'écoutant, là, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui a à la fois un dessin, un graphisme magnifique. Hein, vous l'avez dit, c'est un film d'animation. Donc, l'histoire est principalement racontée en couleurs. Et puis, il y a des mélanges de genres, puisque on passe à des images d'archives et des extraits de journaux télévisés, donc de films réels. Et puis, on passe à du dessin au noir et blanc, au fusain, quand il commence à parler d'histoire, de souvenirs plus, soit plus douloureux, soit dont il se souvient moins, justement. Mais en l'écoutant là, je me dis que ça ferait aussi un formidable podcast radio en fait.
Le son est extraordinaire.
Et voilà. Et donc c'est vraiment une œuvre de grande qualité. Il faut vraiment saluer l'audace d'Arte de programmer ce genre de à la fois animation et documentaire. Ces deux genres, on le sait pas évident, pas grand public. C'est dans une case du lundi soir qui est extrêmement éclectique. Et voilà, c'est lundi d'avant, c'était un western, Les Cavaliers du désert. Et là, et ça, c'est vraiment un travail de programmation fait par Olivier Père qui est vraiment à la fois cinéphile et grand public, qui est vraiment formidable.
Françoise, je crois que vous n'êtes pas tellement familier des films d'animation.
Oui, je n'aime pas tellement les films d'animation. C'est pour ça que je ne suis pas très bon juge sur ce film que j'ai regardé. Et, enfin, on voit évidemment que c'est d'une très grande qualité. Ça, c'est évident. Après, moi, si vous voulez, si je n'aime pas tellement le cinéma d'animation, c'est que j'ai du mal à me départir d'un point de vue de cinéphile, qui est que le cinéma enregistre le réel, et donc je suis assez mal à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, il me semble que ce film, quelque part, me donne raison, parce que quand le réalisateur veut nous faire voir des choses importantes, soit il a recours à des images d'archives, soit nous quittons le dessin habituel des personnages pour aller dans ce noir et blanc au fusain, que je trouve d'ailleurs très beau. Mais du coup, on se dit, en fait, le dessin de ces personnages est totalement accessoire, et ça me pose un problème sur l'ontologie du film d'animation.
Alors, il y a Pierre Samanos qui réalise cette émission, qui me souffle que la musique rock qu'on a pu entendre à la fin d'extrait du film, c'était le groupe AA. Et en fait, le dessin au fusain dans le film d'animation, ça fait aussi référence au clip de ce morceau de musique qui était déjà un dessin au fusain. Voilà, il est très savant. Delphine Fraissinet, vous, votre regard sur ce film ?
Oui, tiens, d'ailleurs, le titre de A, c'était Take On Me. Oui, mais alors moi, j'ai aimé vraiment ce double voyage, parce que c'est un double voyage, un voyage extérieur, hein, puisqu'on entend Amine raconter sa fuite de l'Afghanistan. C'est aussi un voyage intérieur qui montre son acceptation de son homosexualité. Le dessin est absolument sublime, effectivement. Valérie et François l'ont dit, les dessins fantasmagoriques, hein, pour décrire les passeurs, qui sont vraiment très très beaux. Je suis pas totalement d'accord avec François sur le fait que le dessin de l'animation ne permet pas d'ancrer dans la réalité, parce que il y avait eu Valse avec Bachir qui traitait de la guerre du Liban, et il y a aussi eu très récemment la traversée de Florence Mihail, un film de peinture animée qui parlait de deux jeunes migrants et qui était absolument bouleversant et qui nous faisait comprendre justement la complexité du réel par la puissance du dessin. Et j'ai trouvé le mélange documentaire et dessin et images d'archives assez vraiment vraiment intéressant. J'ai pas été bouleversée comme pour Valse avec Bachir ou comme La Traversée, mais c'est absolument un film à voir.
Voilà, à voir. Sur, un petit mot pour Valérie en plus.
Dire aussi qu'on est vraiment dans le dans l'ADN de d'Arte, parce que c'est une coproduction européenne qui réunit 9 pays aussi différents que la France, le Danemark, l'Estonie, l'Italie, et qu'on sait, voilà. Et en ça, c'est un vrai lien de culturel et de paix.
Le film s'appelle Flea, FL2E. Il est signé Jonas Poer Rasmussen et donc il est à voir sur le site d'Arte jusqu'à la fin du mois d'août. Les 30 ans d'Arte, je vous l'ai dit, c'est tout un ensemble de programmations pour célébrer la création culturelle. Et parmi tous ces possibles, Valérie, c'est vous hein, qui nous avez soufflé ça. Vous avez remarqué le cycle Desplechin. Donc un certain nombre de films d'Arnaud Desplechin qu'on peut voir sur le site d'Arte, qui on verra tout au long de l'été sur la chaîne télévisée. Arnaud Desplechin, c'est un des auteurs français qui compte. Je vais faire le tour, hein, vous demander à chacun comment vous, si vous aimez ou pas Arnaud Desplechin.
En tout cas, c'est une bonne entrée en matière. Il y a 4 films qui sont proposés. C'était aussi l'occasion de saluer aussi le travail fait sur le site internet d'Arte. Donc c'est arte.tv. Donc vous pouvez pas le voir en replay. C'est vraiment sur internet. Et oui, c'est un des plus grands réalisateurs français qui traite à travers tous ses films. Voilà, des liens familiaux beaucoup quand même. Et donc là, peut-être dans l'ordre, si vous voulez commencer par un des films proposés, Un conte de Noël, qui est peut-être le plus accessible. Et puis, on retrouve les mêmes personnages d'un film à l'autre. Et ce qui est formidable chez Desplechin, c'est qu'il embrasse tout. Voilà, tout l'humain et toute la vie. Donc le drame, le rire, la haine, l'amour, la vie, la mort. C'est formidable.
Delphine Frayssinet, vous aimez Arnaud Desplechin?
Oui, pour ceux que j'en ai vus, parce que j'avoue, j'ai pas vu les derniers. C'est vrai que j'avais adoré Un conte de Noël, hein, Mathieu Amalric qui dit je ne t'aime pas à Catherine Deneuve qui joue sa mère, et qui est castatrice et qui lui répond mais joyeusement, cruellement, mais moi non plus. C'est une scène absolument jubilatoire. J'avais bien aimé aussi l'un de ses tout premiers, La Sentinelle. Hein, avec cette tête coupée qui était transportée dans la valise. Donc, enfin voilà, moi je peux pas trop en parler de Desplechin, mais c'est vrai que de ceux que j'en ai vus, j'aime bien cette façon d'aborder moi la complexité des relations familiales par la fiction, et parce que ça permet de transcender, ça permet de donner une autre chance en fait au personnage. Donc voilà, donc je vais pouvoir réviser mon Desplechin.
Alors Michel Taddeï, vous êtes une familière de l'univers d'Arnaud Desplechin?
Bah écoutez, ça ne va pas vous étonner, moi je suis familière d'une de ses productions, d'une de ses réalisations, c'est sa mise en scène de Père d'Auguste Strindberg à la Comédie Française, c'était en 2014-2015, je ne sais plus exactement, et là encore, liens familiaux, et je trouve que là il y a toute la subtilité dans ce texte et tout ce qu'il a envie de raconter dans le sous-texte sur justement la famille, les rapports entre les parents, les enfants, les frères, les sœurs, voilà. Pour moi, Desplechin, c'est le théâtre aussi.
C'est aussi le théâtre. François, on le sait, vous en avez déjà évoqué dans cette émission, hein, Arnaud Desplechin, c'est quelqu'un de très important pour vous. Alors, le Arte, c'est bien, mais le cinéma en vrai, c'est quand même mieux. Et en ce moment, il y a aussi, on peut voir aussi en salle, le dernier Desplechin. On va écouter la bande-annonce et François, vous nous direz après pourquoi vous avez aimé ce film.
Où est-ce qu'ils sont, mes parents?
Ils sont vivants.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ma chérie, où est-ce qu'il est, ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Est-ce que tu le sais, au moins?
Hein? Je pardonnerai jamais à Louis.
Alice, tout était parti d'un mauvais pied. De gauche. Puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance.
Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place.
Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur.
Je dois jouer tous les soirs. J'ai jamais autant souffert.
Vous pouvez pas prendre les médicaments comme ça, c'est beaucoup trop.
Tu connais quoi de ma santé? Tu connais quoi de moi? De ce que j'endure?
Alice était un génie.
Mais un jour, le génie, c'était toi. Et ça a tué Alice.
Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée.
Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer?
Réparer quoi?
Mais ma grande sœur! Arrêtez sa haine!
pardon. Pardon.
François Huguenin, Frères et Sœurs, le dernier film d'Anno Desplechin qu'on peut voir en ce moment en salle. Vous avez été conquis encore une fois?
Oui, alors c'est peut-être pas le plus grand Desplechin. Hein. Moi, mon trio, c'est dans l'ordre de parution, comment je me suis disputé, Esther Kahn, qui est Roi et Reine peut-être plutôt, et puis Trois souvenirs de ma jeunesse. Mais j'ai beaucoup aimé Frères et Sœurs, parce que c'est vraiment l'art de Desplechin. Je crois que c'est un immense cinéaste de la parole, et un immense cinéaste psychanalytique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il sait que... Enfin, ses films reposent sur la parole, et pourtant, ce sont toujours des films de cinéma. Et là, il y a cette parole, ou ces paroles, entre ce frère et cette sœur qui se haïssent, on ne sait pas pourquoi, et aussi ces paroles qui n'ont pas été dites, et qui sous-tendent peut-être cette haine partagée entre les deux. Moi, je trouve que c'est très beau. Il n'y a jamais de jugement. Et donc ça, c'est vraiment très fort. Il y a juste une chose qui m'a étonné. C'est que je n'ai pas compris la fin. Qui, pour moi... J'ai eu l'impression qu'il y avait eu du mal à finir ce film. Comme si ce film ne pouvait pas être terminé. Au sens où, au fond, une haine ancestrale intrafamiliale comme celle-ci ne peut pas avoir de fin. Même la réconciliation, ou en est-elle une d'ailleurs, je ne sais pas, ne peut pas être une fin, parce qu'une histoire familiale est toujours une histoire sans fin. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire, mais du coup, je ne dirai pas quelle est la fin.
J'espère bien.
Voilà, j'ai été un petit peu étonné, mais je préfère toujours dans ce cas-là penser que le cinéaste avait un projet que je n'ai pas été assez malin pour comprendre.
Voilà, ça s'appelle Frères et Sœurs et c'est signé Arnaud Desplechin. Ça fera bientôt 40 ans que l'acteur français Patrick Devers a mis fin à ses jours. Alors je vous renvoie à l'émission Tout doux de Vincent Lebellotti, c'était il y a quelques jours, hein. Une émission qui est largement revenue sur cette histoire tragique. Cet anniversaire est l'occasion de parler à nouveau frais de cet acteur culte des années 80. Sa fille était à Cannes pour présenter Patrick Devers, Mon père, mon héros, hein, un film. Et puis il y a collection Écouter le cinéma qui lui consacre un vinyle hommage. On écoute un extrait du Beau-père.
C'était l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant panoramique au dernier étage d'un hôtel international avec vue imprenable sur la capitale. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou ailleurs. Il y aurait eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens. Les mêmes créatures aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. Je pouvais leur jouer n'importe quoi. Gershwin, Chopin, Art Tatum. De toute façon, ils n'écoutaient pas. Tout ce qu'on me demandait, c'était de faire le moins de bruit possible. Juste un peu d'ambiance. Quelque chose de ouaté, comme un velours. Pour accompagner leur Saint-Emilion, leur Shrimp Cocktail, leur T-Bone Steak.
La voix de Patrick Devers et une musique signée Philippe Sard.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Valérie, avec vous, Cannes se prolonge encore un peu. Il y a eu un palmarès un peu étrange, hein, comme si le jury n'avait pas vraiment réussi à choisir. Alors il faudra attendre, hein, pour pouvoir voir la plupart des films. Ils vont sortir à l'automne, mais les Parisiens sont un peu chanceux puisque certains films vont sortir en avant-première dans des festivals et vous en avez sélectionné deux.
Et oui, parce qu'il y a effectivement que 150 films quasiment hein, projetés à Cannes. Donc, il y a deux sélections qui sont reprises à Paris. C'est Un certain regard qui est repris au Reflet Médicis dans le 6e arrondissement de Paris. Et puis, La quinzaine des réalisateurs qui est repris au Forum des images. Donc, c'est à Beaubourg et c'est du 16 au 26 juin. Alors, un film de chaque. Hein, donc, La quinzaine, c'est une sélection hein, parallèle qui est plutôt un vivier de futurs grands réalisateurs. C'est quand même là qu'ont débuté les frères Dardenne, Chloé Zhao. Donc cette année, il y avait 7 premiers films sur 23, dont un documentaire donc, qui m'a beaucoup touchée. Alors, ce n'est pas une jeunesse, puisque c'est un documentaire qui est signé de Dany Arnaud.
Alors, on a beaucoup parlé d'Annie Arnaud ces dernières semaines dans l'émission, avec la sortie de son dernier livre, Le jeune homme. Mais il y a aussi un film dans son actualité.
Voilà, qu'elle a signé avec son fils David Ernaud Brio. Alors, ça s'appelle Les années Super 8. Donc, c'est relativement court, hein, ça dure à peine plus d'une heure. En fait, c'est un montage de leurs images personnelles, familiales, hein, qu'ils ont tournées dans les années 70 avec une petite caméra Super 8, donc jusqu'en 81, qui était l'année du divorce d'Annie et Ernaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? En fait, un bonheur familial, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, deux jeunes parents souriants, leurs beaux garçons, leurs vacances. Alors moins banal, parce qu'ils ont deux voyages assez étonnants. Hein, ils étaient partis dans le Chili post-Allende, et puis alors un autre en Albanie communiste. Hein, donc c'est des images assez rares quand même. Mais bon, donc ce qu'on voit, c'est toute une décennie qui est vraiment au croisement de l'intime et de la grande histoire. Et l'intérêt du film, c'est le décryptage qu'elle en fait. En fait, elle livre en fait en voix off l'envers du décor, et donc elle lit le texte qu'elle a écrit. Alors on retrouve évidemment le contenu de ses livres avec son sentiment d'imposture sociale. Ici, c'est plutôt dans sa belle famille. Hein. Puis l'histoire de son couple qui se délite, puisque en fait c'est la période où elle a écrit en parallèle ses deux premiers romans. C'est donc Les Armoires vides paru en 74 et La femme gelée en 81. Donc voilà, au final, c'est un peu une drôle de sensation, parce qu'on met des images en fait sur une œuvre littéraire dans laquelle on s'est effectivement tous construit un peu un imaginaire, et en même temps, voilà, c'est à la fois très personnel et universel. Et elle était très émue quand elle l'a présentée sur scène.
Ça s'appelle Les années Super 8, et on pourra le voir du 21 au 25 juin. Vous nous rappelez le cinéma à Paris?
C'est au Forum des images.
À Beaubourg. Autre film, peut-être un peu plus rapidement, Le bleu du caftan de quelqu'un qui vous est cher, c'est Mariam Touzani.
Oui, parce que donc c'est son deuxième film, et qu'on lui avait remis l'année dernière le prix Croire au cinéma pour Adam, magnifique film dont il reprend toutes les qualités. Hein. C'est vraiment un cinéma de l'intime, c'est un film extrêmement pudique, délicat, tout en douceur et en sensualité. Alors l'histoire est un peu différente, c'est l'histoire d'Alim qui tient un atelier de couture dans la Médina avec sa femme, qu'il aime profondément, si ce n'est qu'il est homosexuel et qu'il a appris à cacher ça depuis toujours. Et voilà, donc le film montre comment par amour l'un pour l'autre, ils vont s'entraider face à ce secret, face à la maladie de Mina aussi. Donc c'est courageux hein, comme cinéma, parce qu'elle aborde vraiment des sujets politiques tabous dans son pays, hein, la sexualité, la religion, et voilà, mais l'émotion alors affleure un peu progressivement, mais la fin est à nouveau bouleversante.
Le bleu du caftan, donc c'est ce dimanche, c'est ça?
Exactement,
dimanche à 16h30
au Reflet Médicis dans le 6e.
Voilà. En attendant les films de Cannes, il y a d'autres films à voir au cinéma. Alors on a parlé du Desplechin, mais vous Delphine, vous avez écarquillé les yeux devant L'école du bout du monde. On part au Bhoutan.
Oui. Exactement. Alors le Bhoutan, vous savez, c'est le pays du bonheur national brut, hein, qui a remplacé le PIB. Alors c'est l'histoire de Ojien. C'est un jeune instituteur, mais enfin franchement, il n'est pas passionné par son métier. Lui, c'est vraiment un jeune bien dans son époque. Hein, il vit à l'occidental, il habite à Thimphu, la capitale. Il vit chez sa grand-mère, il a des amis, il a une copine, il joue de la guitare, il est tout le temps vissé à son iPod, et il ne rêve que de partir en Australie pour y être chanteur. Sauf qu'il n'a pas fini son engagement comme instituteur auprès de l'État. Sur les 5 ans, il lui reste encore un an à faire. Donc au niveau de sa hiérarchie, il passe vraiment pour un tir au flanc. Mais c'est vrai que quand il rencontre sa ministre, il a le casque vissé sur les oreilles, l'air de s'en foutre, mais totalement. Alors pour son dernier poste, il va être envoyé où? À Lunana. Et alors Lunana, c'est le village le plus reculé du Bhoutan, à plus de 5000 mètres d'altitude. Il faut 8 jours de marche pour y arriver. Il n'y a bien sûr pas d'électricité, donc pas de réseau. Alors un village sans réseau, non mais à l'eau, quoi. Enfin bref, pour Oudjian, c'est vraiment la punition. Sauf que cette punition va être comme une rédemption, une reconnexion à la nature dans ce village, donc, où on allume un feu en utilisant de la bouse de yak séchée. Le titre original, The Yak in the Classroom, prend d'ailleurs tout son sens et c'est ultra drôle. L'école, c'est une petite maison d'une seule pièce, sans tableau noir, sans feuilles, sans stylo, par quelques manuels laissés par le prédécesseur dans un coffre pour, il n'y a même pas une dizaine de minots, ils sont 5-6. Et voilà, mais je disais, c'est une reconnexion à la nature, au chant traditionnel et aussi donc à la prise de conscience donc de l'importance de son métier, parce que les mômes et tout le village traitent vraiment l'instit avec respect, avec déférence, avec admiration. C'est leur porte ouverte vers la connaissance, leur chance d'avenir. Alors c'est vrai que vous me direz, bon, ça a l'air un petit peu éculé quand même comme scénario, hein, le retour aux sources d'un jeune homme occidentalisé, ce rapport, modernité, tradition. Sauf que, oui, c'est vrai, c'est éculé. Sauf que ce qui change tout, c'est vraiment ce regard plein d'amour, d'empathie, d'admiration et d'attention que porte le réalisateur sur cette région et ses habitants. Il y a des plans magnifiques, notamment quand Oudjian descend un sentier, on a l'impression qu'il est au-dessus d'un nuage, il descend un peu et on Et là, le nuage lui apparaît comme un toit sur la tête. Enfin, il y a des paysages sublimes. Et les habitants, bah, on a envie de les connaître, de les rencontrer. Hein. La petite Pemzam, la petite fille irrésistible, la capitaine de classe, et bah, cette petite fille, c'est la vraie Pemzam dans la vie. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le réalisateur, donc Pao Choining Dorji, a réalisé ce film avec les enfants et la plupart des habitants du village qui jouent leur propre rôle. Voilà. Donc, un conte qui a un charme fou. Et qui donne envie de partir sa codo. Je veux aller au bouton.
On va se mettre un petit peu dans l'ambiance, on écoute un extrait de la bande-annonce. Allez, l'école du bout du monde, le coup de cœur de Delphine Fraissinet, c'est à voir actuellement au cinéma.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Merci d'écouter Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Avec nous cette semaine, Delphine Fraissinet, Valérie Marniac, François Huguenin et Michel Taddeï. Michel, le mois de juin est là, les vacances approchent et avec elles le temps des lectures d'été. Et vous nous proposez de nous mettre à l'heure du polar italien.
Et oui, pour ceux qui ont besoin d'une séance de rattrapage, je vous propose deux auteurs connus, hein, puisqu'il y a Andrea Camilleri et Donna Leone, dont les bouquins se situent en Italie. Le premier en Sicile, Andrea Camilleri, c'est son pays. Il y a vécu, il a fait tout un tas de métiers, toujours artistiques, hein, puisqu'il a été metteur en scène, poète, réalisateur. Bon, avant d'écrire à 57 ans, tardivement, donc son premier roman, et c'est au tour du commissaire Montalbano, vous avez peut-être vu à la télé, qui en fait ne ressemble pas du tout au chauve qu'on a vu, hein. C'est pas du tout cet aspect-là, il a des cheveux quand il le décrit, et Montalbano c'est quelqu'un qui se frotte un peu à tout ce que la Sicile a de particulier, et surtout à la langue, puisqu'il ne parle pas italien, il parle sicilien. Alors, pour les Italiens, c'est effectivement déjà très très exotique, hein, ce langage. Et alors, pour le traduire en français, puisque tous ses romans ont été traduits en français, il a fallu conserver quelque chose qui était à la fois de la langue noble, hein, du français, et puis des particularismes. Alors évidemment, le traducteur, hein, a pioché dans pas mal dans le marseillais, mais ça, il s'appelle Serge Quadrupani, le traducteur, et le Parseillais, le Provençal. Enfin, il y a des idiomes, mais c'est très, très drôle. On comprend tout, hein, quand même, comme les Italiens qui lisent Montalbano comprennent tout. Il y a 28 romans autour du commissaire Montalbano. Camilleri est mort en 2019, mais en 2015, il avait écrit la dernière aventure de Montalbano, parce qu'il ne voulait pas que son personnage lui survive. Et il avait confié ça à l'éditeur en disant « ce sera publié après ma mort ». Ça a été publié en 2020 en Italie. C'est pas encore traduit en français. Ça va l'être sans doute cet été à l'automne. Ça s'appelle Ricardino et ce sera sans doute fabuleux.
La dernière aventure du commissaire Montalbano.
Exactement. Et alors le deuxième auteur, c'est une femme, Donna Leone, qui est américaine, qui a été dans une première vie professeur de littérature anglaise, et qui un jour en voyage est allée à Venise. Elle est tombée amoureuse de Venise, elle n'est pas la seule, hein, vous me direz, mais, sauf que elle s'y est installée et elle y a vécu 30 ans jusqu'en 2010. Et là, c'est là qu'elle a commencé à écrire. Alors encore un commissaire, il s'appelle Brunetti. Là aussi, il a été adapté par des Allemands en série télé. On l'a vu sur France 3, me semble-t-il. Et en 2010, elle a quitté Venise parce que elle avait peur. Elle a eu peur que les Vénitiens ne soient pas d'accord avec ce qu'elle écrit de leur ville. Non que ce soit plein d'horreur sur la ville, au contraire. Sauf que elle s'est dit, on va trouver que je fais des clichés, que j'ai des stéréotypes, que... Et alors, ces romans ne sont pas traduits en italien. Ils sont traduits dans toutes les langues, mais pas en italien. Parce que les critiques, qui ont quand même lu hein, en anglais ces romans, disent oh « là, c'est pas notre ville, c'est une ville pour touristes », alors que bon, pour nous, pas du tout. Hein, pour nous, c'est Venise telle qu'on l'aime. Et elle aborde beaucoup de thèmes contemporains, d'actualité. Elle parle de la société, elle parle de la place de la femme, elle parle de... évidemment des problèmes un peu d'insécurité dans Venise. Elle parle de la montée des eaux, elle parle de l'homosexualité, elle parle de plein de choses dans ses aventures du commissaire Brunetti. Et il y a 30 romans pour l'instant et elle n'a pas fini d'écrire. Donc voilà. Et je pense que ceux qui ne connaissent pas ces romans-là, c'est pas mal pour l'été, pour toute l'année d'ailleurs, mais pour l'été, c'est pas mal.
Et vous, Michel, oui, vous êtes plutôt Brunetti ou Montalbano ?
Ah, moi, je suis les deux. Alors, parce qu'en plus, dans Montalbano, je vais vous dire, il y a toute une... parce que c'est quelqu'un de très gourmand, Montalbano. Et alors, il a une femme de ménage, puisqu'il a sa fiancée qui vit loin de lui, donc il est souvent tout seul. Il a une femme de ménage qui lui prépare des petits plats. Et alors, il décrit ce qu'elle lui prépare. Et alors, ça lui donne l'eau à la bouche. Ah là là. Et puis, il a un copain restaurateur chez qui il va lorsque vraiment il a... Il a la dalle, comme il dit. Et ben alors là aussi, au bord de l'eau, avec les petits poissons. Et alors, il mange 15 plats, quoi. Voilà, c'est hallucinant. Et chaque fois, on a la recette.
Ah ouais.
Voilà.
Donc Andrea Camilleri, c'est le commissaire Montalbano. Ça se passe en Sicile. Et Donna Leone, c'est le commissaire Guido Brunetti. Et là, ça se passe à Venise.
À Venise.
Dans Effervescence, je vous propose d'écouter un peu de musique. C'est un morceau choisi par vous, François. On le doit à un monsieur qui se fait appeler le Super Omar, c'est ça ? C'est pas très sérieux ?
Un duo. Le Super Omar, c'est la boîte de nuit dans le film de Lautner, Ne nous fâchons pas. Donc c'est une référence. C'est donc Christophe Vaillant accompagné, donc c'est lui le Super Omar, accompagné de Maxwell Farrington qui est une sorte de crooner australien. Et les deux ont fait un album fantastique il y a eu un peu plus d'un an. Et là, ils reviennent pour un EP 6 titres. Et j'aimerais vous faire entendre Two Hopeful Lovers parce que ça va être un de mes tubes de l'été.
In the valley of love, near the sea of despair, there in the cottage you'll find what you owed, sitting in a jar by the door. Now go and play nicely, the hound's on the run, no losing face in the rain. Two hopeful lovers in a time without TV, came
Hopeful Lover. C'était La Trouvaille de François Huguenin.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
On a commencé cette émission en parlant des Molières, on le sait, hein, les jurys sont parfois injustes ou mal inspirés. Et Valérie, dans les différents prix, ils ont oublié le Laurence d'Arabie d'Éric Bouvron.
Oui, alors qui a quand même été nommé deux fois, c'est vrai que c'est un spectacle incroyable. Alors Éric Bouvron, on l'avait découvert à Avignon en 2016 avec les Cavaliers de Kessel. Et déjà à ce moment-là, il nous emmenait au milieu des steppes moghols d'Afghanistan avec juste trois tabourets dans une petite salle, c'était impressionnant. Là, pareil, il faut quand même être une sacrée ambition hein, pour adapter Laurence d'Arabie au théâtre. Et c'est vraiment un défi totalement réussi. Alors,
on rappelle voilà. Qui est Laurence d'Arabie ?
L'histoire en deux mots, on la connaît, hein, mais c'est donc le destin hors norme d'un jeune lieutenant qui rentre au service de l'armée britannique au Caire et qui devient l'allié des Arabes pendant cette grande révolte contre l'Empire ottoman et voilà, qui va se battre à leur côté.
On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Super. Et vous nous parlez du spectacle après.
En avant, marche ! Nous ne pouvons tolérer que la Turquie devienne l'allié de l'Allemagne. Le pouvons-nous ?
Non, sir !
L'étudiant d'Oxford, c'est cela, n'est-ce pas, monsieur ?
Laurence, je connais ce peuple.
Non.
Je peux faire bien plus que dessiner de vulgaires cartes ou de prendre des photographies.
Enfin, on va envoyer un gosse rencontrer le roi du Hedjaz.
Et pourquoi pas, Michael ? Après tout, ce gosse pourrait peut-être nous surprendre. Un Anglais déguisé en arabe.
Mes salutations, mon cher ami.
Voilà, extrait de Laurence d'Arabie, un spectacle d'Éric Bouvron. Alors sur scène, ça donne quoi ?
Alors sur scène, il y a en fait en permanence les 12 comédiens qui prennent après, qui interprètent.
C'est ce que disait Michel tout à l'heure, c'est l'effet troupe là encore.
Voilà, et en fait ils interprètent plusieurs dizaines de personnages, ils se métamorphosent au fur et à mesure. Dans les 12, il y a trois musiciens, enfin deux musiciens qui jouent d'accordéon, l'a entendu, de violon, des percussions, qui font à la fois les bruitages des actions et la musique, une musique orientale qui est très dépaysante, et une chanteuse surtout qui a une voix absolument, c'est une chanteuse lyrique, elle s'appelle Cecilia Meltzer. Elle a une voix cristalline qui est vraiment quasiment céleste hein, par moment. Et donc il y a des tableaux vivants, esthétiquement très beaux, avec des scènes absolument incroyables. Il y a une scène vraiment d'anthologie. C'est une traversée du désert d'une caravane sous un espèce d'étendard qui flotte au vent dans une lumière rouge. Et vraiment, on y est totalement. On est pris dans une espèce de tempête de sable. Alors avec pourtant très très peu de moyens. Les décors, il y a quasiment rien. Il y a un tapis beige qui représente le sable du désert. Quelques tapis un peu plus colorés quand ils évoquent les marchés ou les tentes des princes arabes. Et puis il y a quelques cantines métalliques alors qui déplacent et qui empilent les unes les autres. Alors à un moment c'est un site archéologique, à un moment c'est le quartier général de l'armée. Donc voilà, il y a un côté comme ça totalement artisanal et en même temps c'est absolument féerique. Donc voilà. Et en plus c'est drôle. Il y a aussi une scène. Il y a un comédien qui imite un chameau pendant une scène de marchandage. Incroyable.
Valérie, vous l'avez vu à Paris, mais ça va tourner. Les gens vont pouvoir le repérer un peu partout en France.
Voilà. Donc là, en ce moment, il se donne pas juste maintenant, mais effectivement, il va tourner toute l'année prochaine dans plusieurs dizaines de villes. Hein, donc voilà, guettez près de chez vous.
Soyez attentifs. Ça s'appelle Laurence d'Arabie et c'est signé Éric Bouvron. Vous avez reconnu ce célèbre extrait de la bande originale du film Jean de Florette. Les plus experts d'entre vous, moi je ne le savais pas, hein, savent que ce morceau d'harmonica est joué par un musicien prodigieux, Toots Thielemans. Une exposition lui rend hommage à Bruxelles qu'il a vu naître et mourir. Et bien sûr, vous y étiez, Delphine Fraissinet.
Oui, exactement, oui. Cette exposition donc sur cette légende du jazz belge, hein, Toots Thielemans, c'est à la KBR, la Bibliothèque Royale, donc le long du Mont des Arts, et on a écouté donc cette musique, hein, donc cette harmonica qu'il joue pour Jean de Florette. Ça illustre bien ce style entre un sourire et une larme. C'est ainsi qu'on décrivait son style si si particulier. Alors, Toots Thielemans, donc, il aurait eu 100 ans cette année. C'était un vrai bruxellaire, un vrai catcheur, un petit garçon des Marolles, hein, ce quartier populaire de Bruxelles. Alors, son nom, d'abord, il s'appelait bien Jean Thielemans. Jean-Baptiste Frédéric Isidore, même si on veut être précis. Et en fait, ça swingait pas trop quand même, hein, Jean Thielemans. Donc en fait, c'est un ami trompettiste qui l'a rebaptisé Toots. Alors l'expo, on l'a fait casque sur les oreilles. Elle est déclinée en plusieurs thèmes. On voit bien sûr sa vie, son parcours, ses influences. Il a été influencé, lui, par Louis Armstrong, par Django Reinhardt, le blues, la musette, le swing, donc l'ont beaucoup influencé avant qu'il trouve sa propre voix. On voit ses instruments de musique, l'harmonica, bien évidemment, il en avait plusieurs, mais aussi la guitare, l'accordéon, la trompette, il savait jouer de tout. Et puis, on voit pas mal, bien sûr, d'objets, de photos. Il y a cette photo géniale avec Benny Goodman. Ils échangent chacun leurs instruments, l'harmonica et la clarinette. Toots Thielemans, en fait, c'est vraiment un artiste qui a eu une carrière absolument brillante, qui a joué avec tous les grands. C'est vrai que le jazz était très important dans sa vie, mais il n'y avait pas que le jazz aussi, puisque on peut écouter les musiques qu'il a fait pour des films, mais aussi pour des pubs, pour des illustrations. Et il sifflait aussi, c'était d'ailleurs son titre, un bluesette. C'est le titre qu'il a fait connaître. Alors, moi, ce qui m'a marqué vraiment dans cette exposition, c'est que on voit à chaque fois sur les photos, mais qu'il y a de la joie tout le temps dans son regard, dans ses mots, dans son sourire. Il a une humilité et puis il a une malice de gamin assez impressionnante. On va préciser aussi que cette expo, elle est en coproduction, puisque le musée a beaucoup prêté d'objets. C'est le musée des instruments de musique, le MIM. Et puis pour voir un petit peu comment Toots Thielemans a rayonné aussi, ben, par exemple, parmi les trésors qui sont exposés, ben, sa veuve, Huguette, voici une lettre qu'elle a reçue peu après la mort de Toots Thielemans en 2016, à 94 ans. « La musique soufflée dans l'harmonica de votre mari a beaucoup compté pour moi. » Cette lettre est signée Barack Obama.
Carrément. Voilà. Merci Delphine. Toots Thielemans, les 100 ans d'une légende belge, c'est à voir au KBR à Bruxelles jusqu'au 31 août.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Des idées de balade maintenant pour terminer cette émission. À Aix, Michel, ce sont les flâneries d'art contemporain qui vont se tenir le dernier week-end de juin dans les jardins d'Aix-en-Provence. Vous nous expliquez le concept ?
Alors le concept, ben, il fallait une aixoise pour penser à ça. Cette aixoise, c'est Andrea Ferréol, qui est née à Aix et qui y habite. Et elle s'est dit que dans cette ville, il y avait des jardins privés que personne ne voyait, à part les propriétaires des hôtels particuliers du XVIIe siècle auxquels sont rattachés ces jardins. Et elle est allée frapper à leur porte et leur dit « Écoutez, vous pouvez pas ouvrir pour que les gens viennent voir ?» Alors au départ, ils ont été un peu étonnés, un peu circonspects. Ils ont eu peur d'être envahis. Et puis finalement, il y en a un qui a commencé. Maintenant, il y a 4 jardins qui sont ouverts au public un week-end, alors là cette année c'est donc les 25 et 26 juin, pour accueillir des expositions. Alors il y a de la peinture, de la sculpture, de la céramique, de la musique aussi, avec cette année il y a également de la danse, mais il y a surtout des comédiens qui viennent faire des lectures. Alors cette année, on a par exemple Bruno Raffaelli, qui a été longtemps sociétaire à la Comédie Française, qui a repris son indépendance maintenant, et qui va lire des extraits de Molière, évidemment. Il y a Marie-Christine Adam, qu'on voit beaucoup à la télévision et même au théâtre, qui va lire du Georges Sand, du Flaubert, du Delacroix. Il va y avoir une curiosité, puisque deux rendez-vous vont se répondre. Il va y avoir Victor Hugo politique et Victor Hugo poétique. Alors Victor Hugo politique, c'est Christophe Barbier, le journaliste, chroniqueur, éditorialiste que tout le monde connaît, qui va le présenter. Il sera accompagné par Pauline Courtin, qui est une soprano, pour la petite histoire, c'est sa compagne aussi, et un piano. Là, ce sera le côté Victor Hugo politique. Et un petit peu plus tard, dans la même journée, Andrea Ferréol, accompagné par un quatuor de violon, parlera du Victor Hugo poétique. Dans les curiosités aussi, il y a quelqu'un qui s'appelle Roumanoff. Bon, ben c'est pas Anne, hein. C'est sa sœur, Catherine. Et alors, écoutez, elles se ressemblent, alors c'est étonnant, c'est vraiment les mêmes, bon, avec quelques petites différences, le rouge à lèvres et les vêtements rouges pour l'une et puis pour l'autre, pas du tout. Et alors, Catherine Roumanoff est peintre, elle présente des portraits qui sont composés par des accumulations d'objets, de déchets, enfin, c'est des portraits en relief, c'est assez intéressant. Et puis, dans les comédien, il y a le grand Michel Faux qui va venir lui aussi faire des lectures. Voilà. Et donc,
tout ça dans les jardins d'Aix.
Ouais, quatre jardins. Ça s'appelle, c'est les 25 et 26 juin. Alors, si vous voulez des renseignements, vous allez sur le site www.aix-en-oeuvre-au-pluriel.com et là vous saurez tout. L'entrée est gratuite, bien sûr.
Merci beaucoup Michel. François, avec vous, direction Fontainebleau, où la restauration de l'escalier en fer à cheval du château est enfin terminée. Et cet escalier, c'est un peu le symbole de la ville.
Et oui, parce que ça faisait 3 ans qu'il était bâché, invisible. Alors il faut dire qu'il était en très mauvais état. La pierre de grès prenait l'eau, l'escalier menaçait véritablement un jour de s'effondrer. Il fallait vraiment faire quelque chose. 2,5 millions de travaux, 3 ans de travaux, il a fallu du mécénat. Mais c'est vrai que cet escalier, on était quand même en deuil de l'absence de cet escalier qui a été construit, alors pas au début de la construction du château, mais en 1632. À partir de Louis XIV, c'est vraiment un escalier qui a eu une importance considérable et fastueuse. C'est là où étaient accueillies les princesses qui venaient se marier avec un fils de France. C'est quand même pas rien. C'est là que Louis XV et Marie Leschinska ont monté ensemble avant de se diriger vers la chapelle royale pour se marier. Et puis, c'est là que Napoléon Ier a fait les fameux adieux à sa garde le 20 avril 1814. Autant dire que c'est évidemment l'emblème de la ville de Fontainebleau, mais aussi un lieu très important de notre histoire. Et honnêtement, c'est le plus bel escalier de tous les châteaux de France.
Merci beaucoup François Hunin pour ce conseil de visite. Allez voir le château de Fontainebleau et son célèbre escalier. Si on est dans la région parisienne, on peut peut-être rester ce week-end à Paris. Se tient le festival Wheel of Green. Tous les grands noms des musiques urbaines françaises y seront. Mais celui qui devrait attirer tous leurs regards, c'est le chouchou de la jeunesse espagnole, le rappeur madrilène Tangana.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Que muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar. Me muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar.
Vamos. Agua.
Mématen, ça me tue, le rappeur espagnol Tangana qui est donc ce week-end au festival Wheel of Green à Paris. Et je pense qu'on devrait pas mal l'entendre cet été sur les plages. Allez, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Pierre Samanos, bien sûr, à la réalisation. Et puis les artistes avec nous, Delphine Fraissinet, François Huguenin, Michel Taddeï et Valérie Demarniac. Comme à chaque fois, une citation pour la fin. Elle est signée Isabelle Carré. Elle a pu dire ça lors de la 33e Nuit des Molières, c'était lundi. Sortons, disait-elle, ne restons pas repliés sur nous-mêmes, célébrons la vie grâce au théâtre qui sait si bien la donner à voir. Bon week-end à tous.